Ce soir, nous allons entendre Catherine Labrusse, qui est professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Paris 1. Catherine Labrusse est également directeur de publication aux Presses universitaires de France, Thémis, droit privé et doctrine juridique. Catherine Labrusse a publié de nombreux ouvrages, et je ne citerai que l'un d'entre eux, qui est en rapport avec le travail de ce soir, « Produire l'homme, de quel droit ? Études éthiques et juridiques des procréations artificielles », naturellement publié au PUF. Et surtout, dans un numéro d'Esprit qui date de quelques années, vous aviez abordé dans un article qui a marqué la filiation en mal d'institution. On peut dire que depuis ce temps, la question se pose encore avec plus d'acuité. Ça explique pourquoi nous allons vous entendre avec autant d'intérêt ce soir.
Famille, droit, filiation. Le droit civil, pas plus que le droit social ou le droit pénal, ne définissent la famille, malgré la place qu'elle y tient. Peut-être parce que tout individu sait ce dont il s'agit, et que, bonne ou mauvaise, tout individu a une expérience de la famille et des liens qui s'y nouent, pour le meilleur et pour le pire. De la filiation, chacun peut témoigner de sa nécessité et des interrogations que suscite la perpétuation de la vie et la succession des générations. Le droit, en revanche, est un mot plus obscur, une auberge espagnole où se mêlent des données multiples, du passé comme du présent. Le présent n'abolit pas l'héritage du passé, il l'intègre et le renouvelle. Des sources d'origine diverses s'entrelacent pour former un droit qui voudrait ordonner la vie humaine et sa transmission de manière cohérente et sensée, à l'aide de structures et de principes qui permettent de relier les êtres humains et de dire ce que chacun doit à l'autre, ce que chaque génération doit à l'autre, pour pouvoir à son tour se projeter dans l'avenir. Ces structures et ces principes ont la vie dure, car les besoins fondamentaux des humains en la matière, s'ils sont vécus et perçus différemment selon les époques et les lieux, ne changent pas vraiment. Ils sont pourtant régulièrement attaqués ou critiqués de n'être pas en accord avec les faits ou avec la justice. C'est pourquoi le droit qui se veut stable ne l'est pas. J'ai placé le droit, ensemble normatif complexe, entre ces deux mots familiers, famille et filiation, parce qu'il est le médium nécessaire entre les deux. La filiation est en effet un des éléments fondateurs de la famille, d'une famille saisie dans la durée et le renouvellement. En effet, ce lien unit l'enfant à ses pères et mères, l'inscrit dans leur parenté respective et par là dans la longue chaîne des vivants et des morts. Il faut les mots de la loi pour instituer ces relations. Nul doute que la filiation constitue alors une pièce maîtresse de cet édifice, fragile et pourtant constant, qu'est le droit de la famille. Mais à la filiation, source de la parenté, il conviendrait d'ajouter le mariage, terme absent du titre de l'exposé, car l'enfant est issu de l'union de l'homme et de la femme. Le mariage est la source de l'alliance, qui rattache l'une à l'autre les deux parentés des époux et qui permet à chacun d'eux d'échapper à l'enfermement dans son lignage. La filiation est donc l'institution, comme l'a écrit Irène Théry, qui permet de lier la différence des sexes et des lignages, paternels et maternels, mais aussi la différence des générations. Que ces trois mots forment le titre de cet exposé n'est pas innocent, car la filiation, comme la famille, contraignent le droit à se départir de sa logique binaire dans le traitement de deux prétentions ou deux intérêts opposés. Il lui faut adopter une logique à trois dimensions, conforme d'ailleurs à sa véritable nature, puisque le droit entre deux adversaires serait lui-même le tiers. Dans le droit de la filiation, la société, la famille, l'individu, ou le père, la mère, l'enfant, ou le couple et les deux lignages des époux, ou l'enfant, les parents, les grands-parents, ou encore l'enfant, ses parents d'origine et ses parents adoptifs, ces triades que l'on pourrait démultiplier encore, sont constitutifs et sont incontournables, dirait-on, aujourd'hui. Ils sont liés avec une intensité variable, mais de façon nécessaire. Le risque des conflits s'accroît. Il n'est pas rare de voir des filiations contestées par des collatéraux dans le but d'écarter un enfant un frère naturel, par exemple, de la succession de son père. Le risque du sacrifice de l'un de ces trois éléments, l'enfant en raison des circonstances de sa conception ou de sa naissance, la mère en raison de sa condition, aujourd'hui peut-être le père réduit au géniteur, le risque d'un sacrifice excessif est plus sensible dans ce domaine qu'ailleurs et le droit y succombe parfois. Que la filiation soit aujourd'hui en crise n'est ni surprenant ni nouveau. Que les juristes réinvestissent le champ de la filiation, défoncé par des forces et des mouvements divers qui viennent des sciences et des technologies du vivant, de la revendication de droits subjectifs à l'enfant ou sur l'enfant, de la multiplication des conflits opposant père et mère, parents et grands-parents, parents d'origine et parents adoptifs, frères et sœurs dans le partage successoral, de la fragilité des couples, que sais-je encore, que les juristes donc réinvestissent le champ de la filiation est une nécessité et une préoccupation du législateur actuel en France comme dans bien d'autres États. La tâche est ardue, car les juristes doivent aujourd'hui défendre non seulement la filiation elle-même, dont les fondements sont devenus incertains et contradictoires, comme si les fils qui la constituent, biologiques, psychiques, sociaux, s'étaient déliés, mais ils doivent encore défendre le droit, le principe même d'une loi qui n'appartient pas aux individus, que l'on ne manipule pas sans dommage au gré des accords privés ou des stratégies familiales, souvent plus promptes à exclure qu'à intégrer la personne. Défendre la loi comme garante des identités subjectives et des passages d'une génération à l'autre n'implique pas l'immobilisme, mais l'adaptation ou l'aménagement prudent des structures grâce auxquelles une société, je dirais même une civilisation, assure le gouvernement de la vie humaine. Dans ce travail, cependant, il faut savoir que l'on n'invente ni aisément ni impunément en droit. En droit de la filiation, moins encore que dans d'autres domaines juridiques. Entre un suivisme aveugle aux faits et une résistance impossible, la voie est étroite. C'est pourquoi la filiation comme objet et comme question du droit ne peut être abordée sans référence au passé et à ses modèles qui valent encore pour le présent. Ce que nous croyons moderne et neuf n'était pas nécessairement ignoré du passé. De même qu'à chaque génération, les fils s'affranchissent des pères sans pouvoir ni devoir les renier, de même, le droit du présent se renouvelle sans pouvoir ni devoir renier son passé. C'est pourquoi c'est à la lumière de ce passé et des modèles qu'il nous lègue que j'examinerai les incertitudes et les questions du présent. Je cherche ainsi à déjouer le piège de l'enfermement dans une opposition normale, quoique stérile, entre le conservatisme qu'impliquerait l'attachement aux structures anciennes et le progressisme adepte de la rupture. Mais l'analyse des mouvements du droit ne doit pas céder aux tentations d'un évolutionnisme de principe, car il y a des noyaux durs qui devraient résister à la passion de l'adaptation comme à celle entretenue par certains de la transgression. C'est pourquoi je voudrais évoquer dans une première partie les fonctions constantes de tout système de filiation, lesquelles sont à la fois agressées et préservées dans notre système juridique actuel. Je traiterai ensuite, dans une seconde partie, des questions actuelles que la famille et la filiation posent au droit civil et au droit civil seulement, telles que deux siècles d'histoire l'ont construit et transformé. Question de toujours d'une part, question d'aujourd'hui d'autre part, exigence permanente d'une part, réponse relative d'autre part. La permanence du droit de la famille et de la filiation, comme de ses fonctions, se démontrerait seulement par l'ancienneté du droit. Le droit en la matière est aussi vieux que l'humanité elle-même, et il semble répondre à une de ces lois dures, il en est peu, qui font des êtres humains, des sujets, des personnes, mises en relation à partir d'une identité singulière et propre à chacune. C'est bien parce que les tensions sont fortes, les équilibres difficiles à établir, que le droit s'impose avec nécessité et que de tout temps il a précédé l'individu. Le droit, dans sa longue histoire, nous apprend que l'équilibre entre les composantes de toute filiation et la stabilité des liens créés, sont recherchés en tout lieu et en tout temps pour tenter d'ordonner le chaos de la vie et des conduites personnelles et sexuelles, de remédier à la fragilité ou à la violence des sentiments, de brider la puissance des pulsions fusionnelles ou fissionnelles, et cela pour permettre, sans aucune garantie d'ailleurs, à toute personne d'assumer sa famille et son lien, sans s'interdire de s'en émanciper. Si la littérature, les religions, l'histoire, les sciences humaines en général ont de la famille et de la filiation une expérience et une connaissance plus riches, mais non moins contrastées que celles du droit, ce dernier a néanmoins une fonction irremplaçable d'institution généalogique de la personne humaine, sans laquelle nulle identité subjective et sociale ne se construit. Le droit de la famille met ainsi en ordre et en relation les membres d'une famille. Art, et je cite Pierre Legendre, de nouer le biologique, le social et l'inconscient par des moyens juridiques qui fassent loi généalogique pour le sujet. Le droit, comme l'écrit Pierre Legendre, est toujours en quête d'équilibre à l'intérieur des modèles et des systèmes qu'il construit, car cet art est plus facile à qualifier qu'à exercer. La mobilité interne d'un système de parenté et d'alliance qui autorise bien des adaptations connaît des limites dont le franchissement signifierait une véritable mutation. Celle-ci est rare parce que dangereuse. Ces frontières externes sont de deux sortes. Les unes tiennent à l'objet et à la fonction de tout système de filiation dont le but est d'ordonner la transmission de la vie humaine. Les autres tiennent au droit lui-même, à ses catégories, à l'autorité de ses normes, comme à la figure de la loi et du juge en la matière. De ce double point de vue, l'incertitude de notre droit positif de la famille et de la filiation témoigne du trouble qui affecte le système lui-même sur lequel les droits occidentaux se sont élaborés depuis plus de 2000 ans. Si bien qu'il est difficile de savoir si aujourd'hui nous sommes dans un temps d'adaptation ou dans un temps de mutation. Il y a tout d'abord des éléments constants du droit de la famille et de la filiation. Le droit de la filiation est le lieu d'invariants mis au jour par l'anthropologie. Ils inscrivent la filiation dans un lien indissoluble de nature et de culture, lien qui lui confère sa signification et sa fonction symbolique. Or, le besoin de réaffirmer le sens et la fonction de la filiation, pour les individus comme pour la société, refait surface aujourd'hui à une époque de gestion utilitariste de la reproduction humaine, voire de régression de celle-ci dans l'indifférencié. Qu'on le veuille ou non, la famille et la filiation sont instituées par le droit à partir de faits de nature qui s'imposent avec l'extériorité irréductible des faits. L'enfant naît d'une femme et d'un homme qui l'ont conçu et qui en deviennent normalement les pères et mères. Il est inscrit dans la différence des sexes et dans la dualité des lignages paternels et maternels. Des tests génétiques rendent aujourd'hui certains des pères qui ne l'étaient pas. Des techniques rendent incertaines des mères qui, à l'inverse, l'étaient. Elles démultiplient les partenaires masculins et féminins à l'acte de procréation, brisant le lien de la chair et de la parole. Cela est nouveau, mais cela n'enlève rien à la nécessité de toujours de désigner comme père et comme mère deux personnes de sexe différent, donc de réfléchir, comme par le passé, à ce qui fait et à ce qui fonde la paternité et la maternité. De même, c'est un fait, la naissance précède la mort. Le fils succède au père, et si le fils meurt avant le père, le petit-fils, s'il existe, viendra à la succession du grand-père au lieu et place de son père. Ce que nous nommons en droit la représentation successorale est une fiction qui rétablit l'ordre naturel des décès que le hasard a bousculé. Mais cela ne joue qu'en ligne descendante, car on ne remonte jamais le temps dans les transmissions. Ainsi, le droit façonne le donné naturel sans le renier. C'est pourquoi la loi française en 1994 a voulu cantonner l'accès aux procréations médicalement assistées aux demandes conforme tant à la nature naturelle, un couple hétérosexuel vivant, qu'à la nature sociale, un couple uni et prêt à accueillir l'enfant, donc aux deux aspects naturels, de nature naturelle et de nature sociale de la famille. Ce n'est pas dire, nous le verrons, que le régime de la filiation qui en résulte soit satisfaisant, car l'artifice technologique n'est pas du tout de même nature que l'artifice juridique, même si l'un et l'autre reconstruisent le monde. C'est en réalité l'objet d'un véritable combat dont l'issue n'est pas évidente. On peut se demander en effet si les technologies à l'œuvre, qui, sous couvert du désir d'enfant, sont de véritables entreprises de production de l'homme, sont maîtrisables juridiquement, et si la disparition d'un donné naturel faisant limite objective au pouvoir ne sape pas à sa racine même la filiation comme principe. Car, agissant sur le vivant, la maîtrise biotechnologique de la procréation évince la relation de l'homme et de la femme, franchit la limite de la mort et ouvre des possibilités qui déjouent les prémices du droit de la filiation. Les efforts du législateur pour maintenir artificiellement les procréations par donneur dans le giron du droit commun masquent mal l'attaque du système lui-même dont les capacités d'adaptation marquent leurs limites. C'est un invariant aussi naturel et culturel que de différencier les personnes à l'intérieur du système généalogique, lequel est justement fait pour cela. Chacun sait que le frère n'est pas le père de sa sœur, que l'épouse n'est pas la sœur de son mari. Le droit, par le montage des filiations, assigne à chacun une place généalogique singulière et non interchangeable qui, par la prohibition de l'inceste et la loi d'exogamie, différencie les personnes et les identifie tout en les reliant les unes aux autres par les droits et les devoirs attachés à leur place. Montaigne notait déjà à propos des empêchements à mariage que le droit canonique soucieux d'exogamie poussait à l'époque fort loin, que si un homme fait de sa sœur sa femme, et s'il ajoute à l'affection qu'il doit à sa parentèle l'amour qu'il doit à son épouse, nul doute qu'un tel homme sorte des gonds de la raison. Des juges spontanément retrouvent l'interdit là où il n'est pourtant pas formulé, à propos des demandes d'adoption de leur petit-fils par des grands-parents. Des tribunaux ont refusé l'adoption au motif qu'elle conduirait à faire du grand-père le père, mais surtout à faire de la mère la sœur de son enfant. Nul ne peut occuper en même temps deux places généalogiques différentes. La loi civile le dit fort discrètement d'ailleurs. La filiation, en cas de procréation incestueuse, ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul parent, la mère le plus souvent, afin de ne pas révéler l'inceste par l'établissement d'une double filiation. De même, plusieurs mères ou plusieurs pères occupant la même place pour un même enfant ne sont pas concevables, sauf en cas d'adoption simple, dont les effets d'ailleurs ne sont pas simples du tout, puisqu'il faut quand même différencier les liens. Est-ce la conscience de cette exigence de différenciation propre à tout système de filiation qui justifie la réprobation générale, sinon unanime, envers le clonage reproductif humain, parce qu'il ramènerait en effet l'être humain qui en serait issu à l'indifférencié? Toujours est-il que notre société, où des individus sont plus souvent tentés par la relation incestueuse, semble réagir avec fermeté, attendant d'un droit trop discret en la matière qu'il précise les infractions et les sanctionne. La filiation est donc l'élément primordial de toute identité personnelle et sociale. Elle ne s'établit pas à partir de rien, mais à raison d'une identification des personnes, pères et mères, qui l'ont engendrée, qui lui ont donné un prénom, transmis un nom, donc une identité reconnue officiellement par l'inscription nécessaire de l'individu à sa naissance dans la communauté sociale au moyen de rites différenciés selon les sociétés, chez nous par l'inscription à l'état civil, lequel n'est pas un simple bureau d'enregistrement. Les enfants qui, par malheur, naissent de parents inconnus ou non dénommés, ou qui sont délibérément privés de leur origine, comme on dit aujourd'hui, sont amputés d'un savoir nécessaire à leur être. Ils cherchent à faire tomber les secrets organisés pour satisfaire l'intérêt des adultes, et ils rappellent que leur droit à une filiation heurte de front le droit prétendu des parents à dénier ou à détruire le lien que la procréation commande pourtant. Voici une question difficile pour le droit français, qui s'étant appuyé depuis la Révolution sur une conception plus volontaire que biologique de la filiation, éprouve beaucoup de difficultés à ouvrir ses secrets sur la vérité biologique et à accepter la responsabilité, donc la limitation du pouvoir de la volonté. Ainsi, enfin, l'institution de la personne par filiation, articulée à la singularité de chaque place généalogique, crée l'asymétrie et la hiérarchie des relations interpersonnelles. Le père n'est pas dans un rapport d'égalité avec le fils. Et si l'un et l'autre peuvent se devoir mutuellement des aliments, seul le premier dispose avec la mère de l'autorité sur l'enfant mineur. Les frères et sœurs viennent certes à égalité de droit dans la succession de leurs parents, mais ils viennent avant et excluent les grands-parents. Les ordres d'héritiers ne sont pas égaux. Le principe d'égalité civile, qui voudrait que tout individu ait les mêmes droits et devoirs qu'un autre, n'a qu'une place relative dans la famille, car il doit nécessairement composer avec la différenciation des places et des rôles, des droits et des devoirs. Si l'égalité des époux dans le mariage a pu être réalisée en droit du moins, plus vite d'ailleurs dans la famille que dans la société en général, le principe monogamique y est pour beaucoup. La filiation à l'intérieur d'un système dépend en effet de la manière dont ce système conçoit l'union des sexes et articule, à partir du mariage, l'alliance et la parenté. Reste à savoir, de nos jours, où la justice commande de ne pas discriminer les enfants nés dans et hors mariage, si c'est désormais l'enfant, ou toujours le couple, qui est à l'origine de la famille en droit. Adaptation, mutation, je laisse la question ouverte. Quoi qu'il en soit, il résulte de cet impératif de différenciation que la famille comme réseau de relations personnelles et patrimoniales n'est certainement pas un groupement comme les autres, où tous les membres sont, comme dans une société anonyme ou un syndicat par exemple, sur des plans identiques et peuvent se remplacer mutuellement les uns les autres à la même place. Certes, dans la famille, la belle-mère ou le beau-père peuvent tenir lieu de mère ou de père pour l'éducation des enfants de son conjoint. Mais nul ne fera d'eux la mère ou le père. Alliés, ils ne sont pas parents, ce qui pose le problème aujourd'hui comme hier, dans les familles dites recomposées, des droits et devoirs du beau-parent envers l'enfant du conjoint. Et si, comme beaucoup le souhaitent, le beau-parent prétend à l'adoption des enfants de son conjoint, donc prétend en devenir le parent, il faudra compter avec le danger pour l'enfant de la suppression des membres du lignage du parent remplacé par l'effet de l'adoption. Car tout se tient dans un système familial, et c'est bien là une exigence difficile à satisfaire. Le droit de la famille et de la filiation est en effet, quel que soit le système, un ensemble normatif d'une grande complexité, bien que l'effet qui le commande soit en réalité très simple. C'est que le système, s'il existe, concerne les personnes et les biens, saisis non pas isolément, mais dans les interactions des éléments constitutifs des différents liens, dont l'ensemble constitue la famille comme réseau de relations interdépendantes les unes des autres. Si chaque élément, par exemple la maternité, ou la paternité, ou l'autorité parentale, ou l'obligation alimentaire, ou le nom, ou la vocation successorale, si chaque élément, donc, peut et doit être traité en lui-même et selon sa logique propre, il est très difficile de l'isoler totalement de l'ensemble des autres éléments. Ainsi, par exemple, faut-il que les enfants d'un second mariage d'un homme divorcé soient tenus, après la mort de leur père, de verser à la première épouse la prestation compensatoire dus par leur père. Faut-il que les enfants d'un premier mariage soient spécialement protégés contre les donations et avantages consentis par leur père à sa seconde épouse? Et si oui, cela vaudrait-il aussi pour un enfant naturel né d'une autre femme que l'épouse? Où commence et où s'arrête l'interaction des droits et devoirs de chacun sur les autres? De plus, un élément en détermine un autre, si bien que ce qui affecte l'un réagit sur l'autre. Par exemple, le mariage déclenche la présomption de paternité, que l'on ne retrouve pas dans le concubinage. La présomption de paternité détermine le fait que le mari de la mère est le père des enfants de sa femme. La présomption de paternité déclenche alors l'attribution du nom du mari à l'enfant. La filiation établie juridiquement ainsi oblige le mari à entretenir et éduquer ses enfants. Et l'ensemble des liens de parenté fixés par la loi va ainsi créer la vocation successorale. Qu'un lien de filiation soit détruit à l'issue d'une action en contestation, et c'est tout l'édifice qui s'écroule avec tous ses effets en chaîne. Il faut donc que le tout soit ordonné, et cette ordonnance dépend des structures plus générales qui sont construites par le droit. Toutes ces questions sont des sujets de controverse et d'incertitude pour le droit contemporain, car le respect des invariants et de la cohérence des ensembles institutionnels n'est pas évident dans une société individualiste comme la nôtre, qui préfère se fonder directement sur les droits subjectifs, ceux de l'enfant comme ceux des adultes, plutôt que sur les liens dont ces droits résultent, sur le droit à la filiation plutôt que sur un droit de la filiation. Mais si rien ne permet de hiérarchiser et de limiter ces droits, comme le font les montages normatifs et les catégories juridiques, la filiation n'est plus alors qu'un champ de bataille et le droit objectif le siège d'incohérence destructrice de sa fonction. Quelles sont alors les figures de la loi et du juge dans ces montages? D'où vient la loi qui gouverne la filiation et qui permet au juge de trancher les litiges et de protéger l'enfant de la violence ou de la manipulation? La profusion des sources du droit, national ou international, masque mal une réalité où, sous couvert des droits subjectifs, des droits de l'homme, du droit à la vie privée, le droit de la famille et le droit de la filiation se dissoudraient. Peut-être y a-t-il là une mutation du droit lui-même, appelé à renoncer à ses catégories et à ses ensembles normatifs construits. Ainsi, maints exemples permettraient de démontrer la décomposition d'une notion classique pour les juristes, la notion d'état des personnes, dont la filiation est un élément essentiel, notion fondée sur le principe de l'indisponibilité. Alain Supiot, dans cette enceinte, l'a évoqué à propos justement de l'institution de la personne par le droit face au contrat qui la manipule. Ce principe d'indisponibilité signifie que la volonté individuelle et le contrat sont impuissants à modifier le statut légal et que les règles qui gouvernent la création et la destruction des liens familiaux sont des règles d'ordre public. Si les volontés individuelles ont leur place dans l'institution de la filiation et de la famille, bien évidemment, la filiation elle-même n'en reste pas moins indisponible car elle ne résulte pas d'un quelconque contrat privé. La Cour de cassation, à propos de la maternité de sa substitution, l'a rappelé solennellement. Mais ce principe d'indisponibilité s'étiole et n'est plus qu'exceptionnellement invoqué. La loi commune n'aurait plus alors... La loi commune n'aurait plus alors qu'à consacrer des droits individuels, des pouvoirs unilatéraux, débouchant au mieux sur des contrats par lesquels les liens familiaux seraient faits ou défaits au gré des intérêts particuliers, convergents ou divergents, mais toujours appréciés par les individus eux-mêmes, exclusivement. Ces individus seraient alors totalement maîtres de leur état, mais s'ils sont maîtres de leur état, ils le sont de celui de leurs enfants, qui eux n'ont pas décidé. Si le statut prédéterminé par la loi disparaît, une autre loi peut s'y substituer, sans difficulté, celle du marché. Le droit européen pourrait bien nous y conduire si les moyens biologiques de la reproduction sont des marchandises, si la distribution des tests génétiques ou des procréations assistées sont des services soumis aux libertés économiques que l'ordre public national a bien du mal à contenir. Nous en avons des exemples dans la jurisprudence. En réalité, nous n'en sommes pas là. Et à supposer que, même si nous y arrivions, le droit du contrat a aussi ses exigences de légalité. Et la liberté contractuelle a un prix, celui de la responsabilité. Le changement de catégorie juridique, du statut au contrat, ne serait pas nécessairement le signe de la déréliction juridique. Ce qui se perd sur un terrain, par exemple la sanction des fautes par l'institution d'un droit de la famille devenu objectif et amoral, la sanction des fautes se récupère sur d'autres terrains, celui de la responsabilité ou celui du droit pénal. Ces déplacements obéissent peut-être à une loi d'équilibre ou de compensation au sein même du système. Plus préoccupant est le déplacement de la loi juridique vers d'autres systèmes auxquels notre société donne une valeur normative qu'ils n'ont pas. Ainsi en irait-il d'une prétendue loi sociologique qui prônerait l'adaptation systématique du droit aux mœurs ou aux faits. Mais en réalité, les mœurs et les faits sont si divers qu'il est bien difficile et de les connaître parfaitement et d'y soumettre une population entière. Jamais le législateur ne peut se dispenser d'un jugement sur les mœurs avec lesquelles le droit qui n'a pas à les ignorer doit compter, mais qu'il garde toujours plus ou moins à distance, ne serait-ce que pour choisir les mœurs qu'il consacre comme les mœurs légitimes. En tout cas, l'histoire du droit est assez riche pour nous enseigner les moyens de répondre à l'état des mœurs sans renoncer à les gouverner un peu. Le concubinage, par exemple, ne pourrait-il pas être traité comme un mariage par les œuvres, un mariage tel que le droit canon l'entendait avant le Concile de Trente? Car c'est le Concile de Trente qui, sous la pression du pouvoir royal, soucieux de contrôler les unions, imposa au mariage la célébration publique et le consentement des familles. Mais le droit canon n'exigeait rien de tel. C'est le droit civil laïque qui, en réalité, a fait du mariage une institution, discriminante qui plus est entre les enfants. On peut le démontrer par bien des exemples. Par exemple, le mot « institution » est apparu dans le langage juridique au moment du rétablissement du divorce en 1884. Il n'existait pas avant. Plus difficile à récupérer dans le droit est la loi scientifique, celle qui nous vient aujourd'hui de la génétique et des pratiques de procréation artificielle. Face à elle, notre droit positif a tendance à s'y soumettre, et cela transforme en profondeur le sens du droit de la filiation et de la filiation elle-même. Car la biologie ignore les personnes, elle ne connaît que les cellules et les gènes, et elle n'est pas non plus indemne d'idéologie ou de fantasmes récupérés par les individus, non pas des biologistes, mais par tout le monde, dont le droit n'a pas à faire le jeu sans risquer de se perdre lui-même et les personnes avec lui. Car il faut savoir qu'est-ce qui justifie que les centres de procréation assistée constituent et détiennent un état, j'ose pas dire civil, un état civil biologique parallèle et secret des donneurs de gamètes. Pourquoi l'expert en génétique a tant de poids dans les conflits de filiation? Les relations familiales sont le lieu de tensions et d'oppositions souvent très violentes et gravement destructrices des personnes. L'enfant précisément doit en être autant qu'il est possible protégé. C'est la mission très ancienne du juge que la modernité ne dément pas. La balance et le glaive, symbole de la justice, y puisent un sens aussi dense que problématique. Pourtant, à cet égard aussi, La confusion et l'incertitude planent sur la fonction du juge, des juges plutôt, car ils sont nombreux à être en charge de la famille et des enfants. Pour certains, la gestion des conflits pourrait se faire sans la loi, ou plutôt par une autre loi que celle du droit, la loi des psychologues ou des médiateurs, selon des techniques d'adaptation psychosociale des individus qui seraient plus opératoires que le tranchant d'une décision de justice. La loi du contrat aussi, de la négociation permanente, laquelle suppose quand même que des individus soient capables de se parler malgré tout. Or, ce n'est pas toujours le cas. L'élimination du tiers qui décide dans les formes de justice dites alternatives ou négociées n'est pas propre aux droits de la famille. Ce n'est pas qu'il faille contester l'utilité et l'opportunité de ces formes de règlement des conflits, mais c'est une question encore d'identification et de différenciation des fonctions des institutions publiques dans le règlement des conflits. Il ne faut pas mélanger le juge et le psychologue. Ils n'ont ni les mêmes compétences, ni les mêmes aptitudes, ni la même fonction. Cela ne veut pas dire qu'ils s'ignorent non plus. Mais la confusion des tâches est peut-être dangereuse, car seul le juge a une procédure pour juger. Sous cet aspect, l'institution judiciaire, au civil comme au pénal, doit trancher des affaires où la filiation est au cœur du procès et qui sont souvent de véritables tragédies. Elle ne peut pas le faire sans le soutien de la loi, ni en considération du seul intérêt de l'enfant, standard trop vague pour ne pas être arbitraire, standard utile et justifié lorsqu'il s'agit d'organiser l'autorité parentale ou de suppléer à sa défaillance, mais standard qui ne saurait dicter la filiation, car elle ne dépend pas, sauf en matière d'adoption, d'appréciation, d'opportunité. Reste à savoir désormais si et comment notre droit répond à ces exigences permanentes de tout système de filiation, comment il y a répondu et y répond aujourd'hui dans la relativité de son histoire. C'est le second point que je voudrais analyser avec vous brièvement. Qu'en est-il de notre droit contemporain et quels problèmes la filiation lui pose ? Ou quel problème notre droit pose à la filiation. La plupart des juristes s'accordent aujourd'hui à dénoncer l'incohérence et la complexité excessive du droit de la famille et de la filiation. On dénonce aussi l'absence de coordination entre le droit civil et le droit social ou le droit fiscal. On critique la piètre qualité technique de certaines lois, celle sur le pacte civil de solidarité par exemple. On dénonce la réforme permanente, car jamais satisfaisante, de certaines institutions, telles que celle de l'adoption. Beaucoup s'inquiètent en tout cas et débattent des solutions qu'apporte la jurisprudence. Par exemple, l'exhumation de cadavres pour lever l'incertitude sur une filiation prétendue ou contestée, comme si l'on pouvait faire parler les gènes au lieu et place de la personne. Les juristes sont critiques dans l'ensemble. Peut-être est-ce leur métier. Toujours est-il que des projets de réforme sont en cours d'élaboration, préparés par des études savantes de sociologues et de juristes. Pour examiner quelques aspects de ce chantier, encore faut-il savoir d'où nous venons, pour comprendre ce qu'il convient de modifier dans le droit de la filiation et quelle signification renouvelée serait conféré à ce lien fondamental que chaque société construit à sa manière en fonction de son histoire. Même en Europe, les systèmes juridiques de filiation diffèrent souvent de manière très substantielle. Mais les lois nationales sont désormais placées sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, sans prétendre imposer une unification, conduit néanmoins à dégager des principes communs. Or, ces principes sont puisés dans les droits de l'homme, point de départ aujourd'hui nécessaire de toute solution juridique. La substitution des droits de l'homme aux institutions familiales opère une déconstruction qui explique en partie seulement les contradictions du droit positif. Mais ils peuvent aussi être la source de recompositions fécondes du droit des personnes et de la famille, à condition d'être recentré sur le principal intéressé, qu'est l'enfant, et soutenu dans leur mise en œuvre par un droit à peu près cohérent. C'est donc de ce point de vue contradictoire que je me placerai pour examiner à la lumière de l'histoire les difficultés et les contradictions du droit de la filiation, mais aussi les significations renouvelées du lien qui peut en résulter dès lors qu'au sommet de la hiérarchie des droits, on situe ceux de l'enfant. Quelles sont les continuités et les ruptures dans le droit civil de la filiation et de la famille au regard des droits des personnes ? Brosser à grands traits, l'héritage divise les deux siècles passés en deux périodes, de 1792 aux années 1960, puis des années 60 à nos jours. Les transformations du droit opérées par la première période sont liées à l'histoire politique de l'État, tandis que celles de la Ve République, qui ont commencé dans les années 60, sont plutôt dictées par des évolutions sociologiques qui ont contribué à développer dans les institutions familiales des principes pourtant déjà dégagés à l'État latent en 1789 et dans la législation qui a suivi. Mais faute de pouvoir retracer l'histoire du droit depuis ces deux siècles, ou plus d'ailleurs, il serait intéressant de remonter plus haut, faute de pouvoir examiner les facteurs nombreux qui ont contribué à son évolution parcellaire ou globale, et qui ont marqué tant la filiation légitime que la filiation naturelle, le droit du mariage ou celui du divorce, le droit de l'adoption comme l'ensemble du droit de la famille, je choisirai plutôt quelques questions importantes qui sont révélatrices des difficultés d'articuler les droits fondamentaux chacun en la matière, les droits fondamentaux de chacun en matière de filiation. Bien que les questions soient liées, j'examinerai successivement les distinctions suivantes. La filiation légitime et la filiation naturelle, la maternité et la paternité, la filiation et l'adoption. La distinction qui fut si forte jusqu'aux années 1972 entre enfant légitime et enfant naturel est vouée à disparaître. Sous la Révolution, quelques projets utopistes et sans écho avaient envisagé d'égaliser les droits de tous les enfants sur le plan successoral, mais on sait comment le Code civil, reconstituant une famille solidement construite sur le mariage, renvoya les enfants nés hors mariage à leur triste sort d'enfants sans famille. Il faut dire que la Révolution n'a pas été aussi favorable aux enfants naturels qu'on aurait pu l'espérer, car elle leur a préféré les droits du père. Elle a rompu, en effet, avec la tradition du droit canonique qui, par souci de sanctionner les relations sexuelles hors mariage, condamnait les hommes à assumer les conséquences de leur conduite envers les enfants qu'ils avaient engendrés, y compris envers les enfants adultérins. La Révolution y mit fin en considérant que la filiation naturelle ne peut être établie que par une reconnaissance volontaire et que la recherche judiciaire de paternité naturelle devait être interdite. On sait que celle-ci, cette recherche de paternité naturelle en justice, ne fut réintroduite qu'avec parcimonie en 1912, puis à nouveau largement ouverte en 1993. À cet égard, il faut remarquer que le droit moderne renoue peut-être avec le droit canonique, que le pouvoir civil avait cherché à limiter afin d'exclure le bâtard. La preuve scientifique vient seulement faciliter la mise en jeu de la responsabilité des pères envers les enfants qu'ils engendrent, volontairement ou non, comme au Moyen Âge. Alors que les révolutionnaires avaient favorisé leur impunité par une conception purement volontaire de la filiation naturelle, de la paternité naturelle. L'égalité des droits de tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur conception, est en revanche une conquête récente, commandée par un souci d'élémentaire justice, compte tenu en outre de l'accroissement du nombre des enfants nés hors mariage. Aujourd'hui, il n'est pas sûr que l'égalité sera si aisément pratiquée en matière successorale notamment, et pour l'enfant adultérin précisément. car il faudra bien composer avec les droits du conjoint survivant. Il faut alors se souvenir, en effet, que les révolutionnaires, lorsqu'ils ont institué l'égalité successorale entre les enfants légitimes, conquête révolutionnaire aussi contre les droits d'aînesse et de masculinité, lorsque les révolutionnaires ont donc institué ce principe d'égalité successorale, ils ont assorti ce principe d'égalité de mesures particulièrement sévères et rigoureuses à l'égard des pères, afin d'éviter que par des donations ou par des testaments, l'égalité de principe ne soit déjouée, ne soit détournée. Ils ont institué la réserve héréditaire des enfants, ils ont bridé ainsi la puissance paternelle, et cela, sachant bien que les individus ne se soumettraient pas avec autant d'aisance que les principes semblaient l'imposer à cette règle d'égalité. Il faut s'en souvenir aujourd'hui, au moment où nous instituons l'égalité des enfants légitimes et naturels, alors que le contentieux de la filiation révèle que c'est souvent pour écarter un enfant naturel d'une succession que l'on conteste la paternité, qu'on conteste la paternité. L'égalité des droits des enfants légitimes et naturels, qualificatifs qui sont promis à la disparition dans le langage juridique, n'exclut quand même pas des différenciations dans les modes de preuve de la filiation. Mais elle ne peut pas ne pas réagir sur le rapport entre la filiation et ses effets et le couple parental. Or, de ce point de vue, tout paraît bien contradictoire et obscur. D'un côté, on nous dit que le mariage doit être dissocié de la filiation, laquelle n'établirait plus qu'un rapport divisé à la mère d'un côté, au père de l'autre, ce que postule l'indépendance des actes de reconnaissance d'enfants naturels. Mais d'un autre côté, on valorise à l'extrême le couple parental au regard de l'autorité parentale et de l'éducation de l'enfant. Et l'on va même jusqu'à obliger, en cas de séparation, à maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à imposer un couple qui n'existe plus pour lui-même au nom de l'intérêt de l'enfant. C'est dans un nombre de cas irréaliste et impraticable, car dans de trop nombreuses hypothèses, un conjoint, un parent est absent, l'autorité conjointe, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est souhaitable en elle-même, n'est pas possible. Mais peut-être que cela traduit une nostalgie envers le mariage, que l'enfant rendrait en définitive à nouveau indissoluble en raison des pouvoirs conjoints des parents. Le divorce ou la séparation des concubins en présence d'enfants n'est pas la rupture des parents, même si celle-ci s'impose en fait, car nous demeurons rebelles à exclure de la filiation et de ses effets le lien du père et de la mère. La structure conjugale est toujours là, avec son poids, sa charge, ses illusions peut-être, qu'un couple parental peut survivre à l'échec d'un couple conjugal. À l'inverse, si le couple reste uni, on peut penser que l'égalité des conditions des enfants nés dans ou hors mariage réagira sur le droit du couple lui-même et que la condition des concubins pourra se calquer sur celle des époux. Seulement, le Pax est venu tout brouiller, ou en tout cas pousser vers une autre rupture. En effet, le législateur l'a voulu comme un contrat sans aucun effet sur les enfants ou sur la procréation. Un contrat de couple stricto sensu. Il postule donc une autonomie complète par rapport à la filiation des enfants des partenaires. Celle-ci ne devrait plus prendre en compte le lien de couple existant entre les parents. Le modèle de la filiation serait alors non plus le modèle de la filiation légitime d'un enfant avec des parents unis,
vers lequel monterait l'enfant naturel, l'enfant d'un couple de concubins. Le modèle de la filiation serait alors celui de la filiation naturelle, où chaque parent est, pour l'établissement du lien, indépendant de l'autre. Est-ce bien cela que l'on veut si l'on prétend adapter le droit à la réalité sociologiste qui reste une réalité de couple parental ? C'est bien compliqué d'y voir clair. Si disparaît la distinction enfant légitime et naturel, demeure en revanche celle de la paternité et de la maternité, dont l'établissement n'obéit pas aux mêmes règles pour des raisons qui tiennent, qu'on le veuille ou non, à la nature. Mais justement, la question est de savoir jusqu'où ces différences s'imposent et comment ne pas discriminer le père et la mère là où ces différences ne se justifient pas. Il en est ainsi du rôle de la volonté par rapport à la vérité biologique. De véritables renversements sont opérés, qui sont des transferts de pouvoir discutables, au profit de la mère. Dans l'ancien droit, on disait que l'accouchement suffisait à identifier la mère et l'enfant, donc à établir la filiation maternelle. La Révolution et le Code civil ont écarté cette règle en faisant prévaloir pour la mère comme pour le père, naturel, l'exigence d'une reconnaissance formelle de l'enfant. Il semble que la jurisprudence européenne nous contraindra un jour prochain à revenir au principe de l'ancien droit pour la maternité, donc à atténuer ou à supprimer le droit pour la mère de ne pas reconnaître son enfant ou d'accoucher sans révéler son identité. Et ce serait juste, non seulement pour l'enfant, mais aussi au regard du père. Car en 1993, une même loi, peu sensible à sa contradiction interne, a ouvert largement l'action en recherche de paternité naturelle contre le père et admis que, en même temps, que l'accouchement sous X rendait irrecevable la recherche de maternité de la part de l'enfant. Outre l'anéantissement des droits de l'enfant et du père, ce pouvoir exorbitant de la mère sur la filiation, alors qu'elle pourrait consentir à l'abandon de l'enfant en vue de son adoption sans renoncer à sa qualité de mère, ce pouvoir n'est pas satisfaisant. Il réintroduit une inégalité entre le père et la mère, là où la différence des sexes ne justifie pas cette discrimination. En revanche, c'est de la paternité dont il s'agit le plus souvent devant les tribunaux, car c'est elle qui, de fait, est douteuse si la vérité biologique en constitue le fondement exclusif. À cet égard, l'évolution de notre droit est considérable, qui fait de la vérité biologique le critère quasiment déterminant des procès. Pour la filiation légitime, jusqu'en 1972, la contestation de la paternité était très difficile. La filiation, fût-elle fictive, était donc stable parce qu'elle était fondée sur le mariage et la présomption de paternité. L'enfant y trouvait une sécurité juridique remarquable. Or, la sécurité du lien de filiation, protectrice de l'enfant contre les désirs d'exclusion des autres, s'est largement perdue en raison de l'ouverture de plusieurs actions en contestation de filiation qui, au nom de la vérité biologique, peuvent ravager la filiation de tous les enfants, légitimes ou naturels. Ce phénomène, qui correspond certainement à des désirs sociaux ou au vieux fantasme du lien du sang, devrait être redressé par le législateur s'il suit les recommandations des rapports qui ont été récemment remis au gouvernement. Cela nous contraint à réviser le sens que l'on accorde à la vérité biologique. La preuve biologique est salutaire là où la filiation n'est pas établie, et qu'elle peut l'être, car elle mobilise la responsabilité des pères et mères envers les enfants qu'ils ont procréés et qu'ils ont refusé d'instituer dans une parenté. En revanche, la preuve biologique est désastreuse si elle n'est pas contenue dans de strictes limites, lorsqu'elle vise à détruire une filiation déjà établie volontairement et déjà assumée en fait par la durée. La difficulté est que l'accès au laboratoire, même placé sous contrôle judiciaire, est assez facile et les restrictions légales ne sont pas respectées par les juges eux-mêmes. Par suite, la preuve parfois requise pour échapper à une obligation alimentaire ou pour prouver l'adultère dans un divorce sert à autre chose qu'à vérifier le lien du sang. Il se pourrait, si l'on y prend garde, que la génétique rende inutile le droit de la filiation. Il suffirait que la déclaration de naissance soit accompagnée d'un certificat médical de conformité biologique des liens déclarés. Plus aucune foi ne serait due à la parole humaine, celle qui engage en vertu de la confiance ou de l'engagement, et non à cause de la preuve objective et glacée. Notons enfin qu'il est contradictoire d'avoir dérogé au droit commun fondé sur la vérité biologique en matière de procréation par donneur et créé une filiation incontestable tout en imitant la filiation charnelle, alors que l'on aurait pu choisir en la matière le modèle de l'adoption. Les solutions qui ont été adoptées en 1994 à cet égard renouent curieusement avec l'ancienne présomption de paternité incontestable, mais celle-ci autrefois reposait sur la vraisemblance de la paternité du mari et non sur le mensonge organisé. On peut se demander si de nouvelles discriminations ne vont pas résulter de ces dispositions propres aux enfants nés de donneurs anonymes, dans la mesure où des distinctions, des mises en cause de leurs droits existent en fonction des circonstances de leur conception. Ce n'est plus la distinction filiation, naissance, conception en mariage ou hors mariage, conception naturelle ou conception artificielle. À moins que l'on ne décide un jour d'ouvrir à l'enfant l'accès à ses origines biologiques et de créer un droit de l'enfant à la connaissance du donneur. Cela consacrerait alors la rupture que le droit s'est forcé d'éviter entre la personne biologique et la personne juridique, entre la filiation biologique et la filiation volontaire. Une telle chose n'a été admise que pour l'adoption, filiation subsidiaire, destinée d'abord à donner une famille à un enfant qui, par malheur, en est privé. Filiation qui, subsidiairement seulement, est voulue pour donner des enfants à ceux qui n'en ont pas. La multiplication des lois en la matière, la révision permanente de la législation est le signe que quelque chose ne va pas dans cette institution. Peut-être pourrions-nous alors nous inspirer de pratiques anciennes qui consistaient à accueillir un enfant sans prétendre se l'approprier et de consacrer a posteriori l'adoption. Cela existait dans l'Ancien Régime, bien que l'on ait dit que l'adoption avait disparu pendant plus d'un millénaire. Entre Rome et son retour pour l'adoption des enfants en 1923 seulement. Ce serait la filiation par les œuvres, consacrée a posteriori et non a priori, de même que pour le concubinage, ce serait le mariage par les œuvres, consacré a posteriori et non pas a priori. Ces contradictions, vous voyez, sont nombreuses sur ces trois points seulement. Pourrait-elle se résorber si l'enfant était alors le guide, quant à ses droits fondamentaux, du droit objectif? Les droits de l'enfant d'abord. C'est affirmer qu'un droit humain doit s'appuyer sur les significations humaines de la filiation et des engagements qu'elle représente envers l'enfant de la part des adultes. Si bien que ce n'est pas du côté des adultes qu'il faut parler d'abord de leurs droits, même s'il convient de faire attention à un juste équilibre entre leurs droits respectifs. Les droits de l'enfant d'abord, cela signifie de la part des adultes que les termes de devoir et d'obligation envers l'enfant sont premiers, et ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra honnêtement parler des droits de l'enfant. Le Code civil ne dit d'ailleurs pas autre chose. Il ne suffit pas de proclamer les droits solennellement. Il faut les rendre effectifs. Et pour cela, il convient d'avoir des montages institutionnels, des montages institutionnels efficaces. Il faut que ceci soit impératif. Car l'enfant est trop souvent l'enjeu des procès dont il ne peut être le sujet, faute d'accéder à la qualité de partie au procès. Ses parents, dans ces cas, ne sont pas des défenseurs légitimes, divisés qu'ils sont entre eux à son sujet. La mise en œuvre des droits de l'enfant suppose donc un droit substantiel revisité et des garanties procédurales améliorées. Ce sont des adaptations d'un système dont les structures ne sauraient être transgressées, sans quoi l'enfant ne serait plus qu'un objet de jouissance et d'expérience au service des adultes. Ce serait un abus de pouvoir sur la personne dont l'État doit rester relativement indisponible à quiconque. Les juristes savent d'expérience que la famille, lieu d'harmonie, qu'André Gide haïssait, faute peut-être d'être entrée dans ses foyers clos et possessions jalouses du bonheur, la famille, c'est aussi un nœud de vipère. Le mal est plus aisé à nommer et par suite à conjurer et à sanctionner que le bien n'est aisé à définir et à accomplir. Je vous remercie.
Bien, merci Catherine Labrusse. Vous êtes fondée maintenant légitimement à poser vos questions. Qui commence ? Le micro ici, s'il vous plaît.
J'avoue que je comprends mal les références diverses sur lesquelles il faudrait s'appuyer, parce que vous avez récusé les droits subjectifs. Non. Vous avez récusé les droits biologiques qui pourtant sont objectifs. La neutralité du juge, en principe, est assurée. Mais est-ce que la loi est suffisamment explicite pour qu'il agisse, disons, de façon quasi automatique, ou faut-il une jurisprudence extrêmement compliquée ? Mais je voulais surtout vous poser une question. Étant donné que vous avez dit que la loi était très différente suivant les pays, est-ce qu'un couple qui irait dans un autre pays, bénéficierait-il ou au contraire serait-il pénalisé par la loi du pays où il va, ou au contraire, cela dépendrait du pays d'où il vient ?
Ah, bon, beaucoup de questions dans vos observations. Premièrement, je voudrais relativiser peut-être mon propos. Je ne récuse pas les droits subjectifs en eux-mêmes. Les droits subjectifs sont indispensables. Seulement, les droits subjectifs, ou bien ils naissent des institutions, ce sont les institutions qui les créent, et ils trouvent leur harmonie grâce à un ensemble institutionnel. Ou bien ils cassent l'institution, parce que l'institution les dérange. Et alors, ils n'existent plus que comme des atomes isolés. Et à ce moment-là, ils deviennent des ferments de guerre civile permanente. Voyez, c'est uniquement ça. C'est pas. J'ai terminé quand même sur les droits de l'enfant, hein, comme droit, comme valeur fondamentale. C'est-à-dire comme principe à partir desquels les montages vont se faire. Mais si ces priorités, si ces hiérarchies de droits ne sont pas établies, effectivement, un ordre juste ne peut pas être véritablement élaboré, et surtout un ordre cohérent, parce que les droits subjectifs, ils sont de multiples, ils viennent de partout, et si on les confond avec les intérêts ou avec les désirs, il n'y a plus d'ordre, il n'y a pas d'ordre naturel dans ce domaine-là, donc il faut le construire. Alors, c'est vrai que le droit de la famille et le droit des personnes en général, le droit de la famille est variable, varie d'un pays à un autre. Ça, c'est le fruit de l'histoire. Et c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, de voir qu'à partir de structures communes, on semble avoir un Occident, grosso modo, des structures à peu près communes de la famille, il y a des différences extrêmement importantes entre le droit anglais, le droit allemand, même s'il y a des filiations aussi de l'un à l'autre. Alors, vous me posez une question concrète. une personne va dans un autre pays ou un couple va dans un autre pays. C'est une question bien connue d'un système juridique qui s'appelle le droit international privé. Alors, c'est encore une affaire très compliquée, ça. Le droit international privé règle ce qu'on en appelle justement les conflits de loi, c'est-à-dire l'hypothèse où une situation juridique a des attaches avec plusieurs ordres juridiques nationaux, avec plusieurs États, plusieurs pays. En matière d'État des personnes, il y a le mariage, le divorce, la filiation, etc. Le principe général est que l'état des personnes est soumis à la loi nationale de l'intéressé. Non. Mais parfois, c'est la loi du domicile qui s'applique. Ça dépend. Le divorce, il y a des règles différentes qui déterminent quelle est la législation applicable. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail pour répondre à votre question immédiatement, car il faudrait la préciser. Dans un cas particulier. Donc il y a un système juridique qui détermine quelle est la loi applicable dans une situation juridique de droit privé qui a des attaches matérielles, enfin objectives, avec plusieurs États, par la nationalité, par la résidence, par le domicile, par l'habitat, enfin par... Alors il y a effectivement des familles internationales, il y a des tas de questions qui se posent en la matière, mais il y a un droit pour les régler. Bon. Ce droit international privé part du principe que les droits sont nationaux. Et il articule les compétences législatives des États, ainsi que les compétences judiciaires des États. Seulement, ce système de droit international privé se trouve doublé par un autre ordre juridique international, qui est par exemple l'ordre juridique européen, par exemple le droit communautaire. Alors le droit communautaire, il part d'un autre principe, il part de l'idée qu'il faut faire une unification des droits. Il ne s'agit pas de coordonner les législations, il faut unifier les droits, et dans une optique qui est une optique économique, essentiellement, mais l'optique économique s'étend de plus en plus. Alors une des questions, c'est une question qui est concrète, qui a été posée à un juge anglais, est-ce qu'une femme qui a... Une femme avait... son mari avait été gravement malade, il est mort très brutalement, alors qu'il était en état de coma, elle a fait prélever du sperme et elle l'a mis en conservation dans un centre médical, et le mari est mort, il n'avait pas donné son consentement, et ensuite elle a voulu obtenir une insémination post-mortem. Et l'autorité anglaise qui est en charge de la gestion de ces questions a refusé, pour bien que la législation anglaise soit très libérale sur ce terrain-là. Elle a dit non, dans ces circonstances, ça ne va pas, pour le principe, parce que essentiellement le mari n'avait pas donné son consentement. Alors, elle a invoqué le droit communautaire en disant « liberté de prestation de service et je veux avoir l'autorisation d'exporter le sperme dans un pays où je pourrais obtenir une insémination post-mortem ». Et le juge anglais a été saisi de la question de savoir s'il devait donner l'ordre à l'établissement médical d'exporter. Alors, il l'a jugé au regard du droit communautaire en disant... Et il a jugé au regard des principes du droit communautaire et il a dit la procréation artificielle est un service médical, le service médical est une prestation de service ordinaire qui obéit au principe de la libre circulation. La libre circulation des services. Il n'a pas osé dire que le sperme était une marchandise qui pouvait circuler comme une marchandise. Ça, quand même, il n'a pas osé. Mais il a fait le détour par l'intermédiaire et il a dit que le sperme est le moyen matériel de la liberté des services. Et il a autorisé. Alors là, vous avez une toute autre manière d'appréhender la chose. Alors moi, je ne peux pas répondre à votre question comme ça. Ça va dépendre de l'ordre juridique mobilisé. Mais il est vrai qu'il y a des questions de valeur qui sont en cause là-dedans. Parce que les États résistent mal, par leur législation nationale d'ordre public, au droit économique international. Vous le voyez bien dans d'autres domaines. Les compétences nationales souveraines, des souverainetés nationales qui peuvent se fondre... Alors, le droit européen connaît des justifications nationales aux restrictions des libertés économiques. Mais il faut toujours que l'État se défende dans ces affaires. Donc, voyez, selon le système dans lequel vous êtes, vous aurez des réponses qui peuvent être complètement différentes.
Bonsoir.
De ce côté-là.
Bonsoir.
Juste sous la lumière.
Oui, je vous vois.
Est-ce que le droit devient de plus en plus... On assiste à ce que... Le droit, il devient de plus en plus archaïque, dans la mesure où il favorise la volonté sur la biologie. Vous l'avez dit vous-même. Et pour le cas précis, je vous dis, par exemple, l'adoption plénière entraînerait une usurpation de l'identité génétique, et donc cela favoriserait à long terme l'inceste et l'exogamie. Alors que lorsqu'on attend que le droit respecte la volonté, il ne le fait pas. Le cas de l'article 2, par exemple, de la Constitution, il a refusé la pratique de la langue régionale. Pour ce qui concerne l'égalité successorale, cela défavoriserait les enfants légitimes. Et bon, il y a beaucoup d'autres exemples. Je considère qu'il y a personnellement que le droit est en train de faire la justice au lieu d'instituer la justesse. Et donc, par la même, c'est un abus de pouvoir, et donc au même titre qu'avant la Révolution.
C'est une opinion. Enfin, la justesse et la justice vont parfois ensemble, mais pas nécessairement. Le droit... Non, j'ai du mal à suivre votre raisonnement. Je pense que le droit n'est pas le résultat d'une solution, d'une équation. Hein. Ça n'interdit pas d'utiliser les mots du droit avec justesse pour faire de la justice. Mais ce n'est pas pareil.
Dernière question.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a tant de résistance à changer la loi de l'accouchement sous X et à qui profite réellement cette loi de l'accouchement sous X. Parce que visiblement, elle ne profite pas aux enfants qui sont nés sous X, encore moins aux mères. Donc j'aimerais...
C'est une question extrêmement conflictuelle, très délicate. L'accouchement sous X est une vieille tradition qui est née dans la Renaissance. Ça remonte à Saint-Vincent de Paul. C'était le fameux tour. À l'époque, il fallait en effet empêcher des désastres personnels pour un nombre de femmes qui se trouvaient enceintes. C'est le droit de cuissage, ça marchait. Hein. Des femmes qui ne pouvaient pas élever leur enfant et finalement ont sauvé l'enfant et la femme et la mère d'ailleurs aussi par la même occasion en recueillant l'enfant avec le secret de la naissance. Il ne faudrait pas faire de l'ancienneté de cette pratique une justification de son maintien parce que les circonstances actuelles ne sont plus au temps de Saint-Vincent de Paul. Alors, l'accouchement sous X a été justifié par différents motifs. Il y avait d'abord le souci de prévenir l'infanticide. Ensuite, les infanticides, on n'a pas beaucoup de données qui permettent de dire qu'il y a un rapport de cause à effet entre l'accouchement sous X et la réduction des infanticides. Les infanticides ont disparu, mais pas à cause de l'accouchement sous X. Enfin, ont disparu, ont considérablement diminué. On n'a pas de relation de causalité qui soit vraiment démontrable. Toujours est-il que l'accouchement sous X est aujourd'hui revendiqué, enfin son maintien est revendiqué. Officiellement, personnellement, j'ai tendance à penser que c'est un certain alibi, même si ça peut répondre à certaines situations concrètes. Par l'état de détresse dans lequel se trouvent un certain nombre de femmes qui n'ont pas usé de la contraception, qui n'ont pas interrompu volontairement la grossesse, etc. etc. Et qu'il y a des situations extrêmement malheureuses, à laquelle il faut remédier. Alors, maintenant, il y a une autre raison. C'est que l'accouchement sous X, par, en effaçant l'accouchement, en effaçant la naissance, c'est hallucinant, cette, ça n'est pas un abandon volontaire, c'est une dénégation du fait de l'accouchement. Donc l'enfant est censé n'être pas né. La femme est censée n'avoir pas accouché. Alors, cela a un avantage, c'est que dans la mesure où il y a un grand nombre de couples qui souhaiteraient adopter des enfants, il y a là des enfants adoptables dans des conditions qui sont plutôt simplifiées dans la mesure où il n'y a pas de rapport à avoir avec les parents d'origine. Il n'y a pas de consentement à donner, l'aide sociale prend en charge l'enfant tout de suite, il est immatriculé comme pupille de l'État, et ainsi il est placé en vue de l'adoption. Et il semble bien que ce soit une des raisons principales pour lesquelles la disposition est maintenue. Cela étant, cette disposition commence à faire l'objet de contentieux, soit de la part de certaines mères, soit de la part des pères. Parce qu'évidemment, des femmes ont essayé de revenir sur la situation, mais elles n'ont pas pu y arriver parce que le système est vraiment... Le système est conçu de telle manière que c'est extrêmement difficile de revenir sur la décision. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous donner mon point de vue personnel est que... alors, en plus, l'accouchement sous X risque, s'il y a du contentieux qui vient jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, ça peut arriver un jour, de la part d'un enfant ou de la part d'un père, notamment... qui n'aura pas réussi à établir la filiation, qui sera heurté à l'obstacle juridique. Il y a tout lieu de penser, au regard de la jurisprudence européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, que la législation française sera condamnée sur ce point-là. Il y a tout lieu de penser, on ne peut pas le prédire avec certitude, mais il y a de bonnes raisons de penser que cette disposition n'est pas en accord avec la jurisprudence européenne. Alors, sur le fond, moi, j'ai tendance à penser que c'est une mauvaise chose, effectivement. D'abord parce qu'on n'est plus au temps de Saint-Vincent de Paul. D'autre part, parce que c'est une conception de l'accouchement et de la femme, de la mère, que je trouve peu digne, dans la mesure où la mère n'est pas sollicitée d'exprimer un consentement juridique, qui lui permettrait ensuite éventuellement soit de revenir sur son consentement ou de... D'autre part, c'est un système... Donc, elle n'est pas protégée juridiquement par le droit du consentement. Bon. Donc, sa liberté est une fausse liberté, c'est une liberté non instituée, non protégée. Ensuite, le système procède du déni du fait. Or, je crois que le droit est capable d'imaginer beaucoup de fictions, mais il imagine du fiction à partir du réel, et pas à partir de la dénégation du réel. Or là, cette dénégation me paraît dangereuse, probablement, mais ce serait au psychologue ou au psychanalyste de le dire, ils sont plus compétents que moi pour le dire sur ce terrain, ça me paraît dangereux pour la mère, et ça me paraît catastrophique pour l'enfant. Parce que l'enfant est radicalement privé d'une identité, d'une histoire, il ne sait pas où il est né, il ne sait pas de qui il est né, il sait pas, enfin, il n'est né de rien, il n'est même pas né. Donc, ça ne va pas. On pourrait admettre des conditions d'abandon des enfants en vue de l'adoption, comme cela est possible, avec un consentement de la part des parents, ou de la part de la mère, car si, enfin, il peut y avoir un consentement en vue de l'adoption... C'est une procédure licite, on aboutirait au même résultat.